Alors, en 2026, 45% de la population mondiale vit dans une région en guerre. Près d'un être humain sur deux. Ces dernières années, les guerres se multiplient. À l'Ukraine, s'est ajouté Gaza, puis le Liban et maintenant l'Iran, sans parler du Soudan, du Yémen, du Congo. Bref, le capitalisme, c'est la guerre. Le 28 février, les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran, puissance régionale de 90 millions d'habitants. Pendant 5 semaines, les bombardements ont fait plus de 3000 morts, détruit des écoles, des habitations, des dépôts de pétrole et des infrastructures. Les frappes ont cessé, mais le détroit d'Ormuz reste bloqué et la guerre peut reprendre à tout moment. Contrairement à ce qu'affirme un ancien chef des services secrets américains démissionnaire, cette guerre n'est pas le résultat de la mainmise de Netanyahou sur Trump, ni même d'Israël sur les États-Unis. Israël est le chien de garde de l'impérialisme au Moyen-Orient, mais il n'est pas la puissance dominante qui impose sa loi au reste du monde. Sans les livraisons d'armes et les milliards de dollars d'aide américaine, Israël n'aurait pas les moyens de sa politique criminelle, ni à Gaza, ni en Cisjordanie, ni au Liban. Aux États-Unis, faire porter la responsabilité à Israël, c'est le moyen de dédouaner la bourgeoisie américaine. Mais même pour nous, ici, c'est important de comprendre que ces guerres sont le produit du système capitaliste sénile et pas le fait du colonialisme sans limite d'Israël, de guerres de religion ou de culture. De même que cette guerre n'est pas due à la folie de Trump. Depuis un mois, du fait du revers subi par Trump en Iran, il est de bon ton de dire qu'il fait n'importe quoi. S'il est incontestable que, par mégalomanie ou par incompétence, il a minimisé les capacités de résistance du régime iranien et n'a pas anticipé sa capacité à bloquer le détroit d'Ormuz, l'attaque contre l'Iran s'inscrit en fait dans une politique. Elle est dans la continuité du kidnapping de Maduro au Venezuela en janvier, de l'asphyxie de Cuba depuis lors. Les États-Unis ont décidé de cogner les régimes qui sont en dehors de leur contrôle. En Iran, ils ont cherché dès sa naissance à affaiblir ce régime, sinon à le faire tomber. Et en février dernier, Trump et derrière lui l'état-major américain ont estimé qu'il y avait une fenêtre car il jugeait le régime affaibli par les revers de ses alliés régionaux, le Hezbollah et le Hamas, suite aux guerres d'Israël, et par les révoltes de la population en janvier. Et puis derrière l'Iran et le Venezuela, les États-Unis visaient aussi la Chine. Ils cherchent à la priver d'une part importante de ses approvisionnements en pétrole, ainsi que de partenaires politiques et commerciaux majeurs. Il vise en fait les pays dans lesquels les entreprises chinoises investissent et font du commerce. En achetant 90% du pétrole iranien, la Chine permettait au régime de Khamenei de se financer malgré l'embargo américain. La guerre contre l'Iran est une manière de réaffirmer qui est le patron dans la région stratégique du Moyen-Orient. C'est pourquoi cette guerre n'est pas seulement une énième guerre régionale au Moyen-Orient. Bien sûr, la région est déchirée depuis plus de 100 ans par des guerres engendrées par les puissances impérialistes, car ses puits de pétrole et sa situation stratégique attisent leurs appétits et leurs rivalités. Mais cette guerre, elle est bien plus que cela. À la fois par ses conséquences, le blocage du détroit d'Ormuz déstabilise l'économie mondiale, et aussi par la période dans laquelle elle a été déclenchée, celle du capitalisme sénile, empêtré dans une crise due à ses contradictions internes qui durent et qui ne cessent de s'aggraver. Les révolutionnaires, les marxistes, ont toujours expliqué que le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. La concurrence et les rivalités pour accéder aux matières premières et disposer d'un marché garanti, la lutte permanente pour étendre sa domination, exporter des marchandises produites en quantité toujours plus grande, avec des moyens de production toujours plus nombreux et efficaces, sont inscrites dans les gènes du capitalisme. Et depuis que le capitalisme a conquis toute la planète, il y a plus d'un siècle, cette rivalité a engendré une période de guerre entre impérialismes concurrents, de crises, de convulsions politiques, quasiment sans interruption, entre 1914 et 1945. Ces deux guerres mondiales ont directement touché l'Europe et les pays impérialistes eux-mêmes, mais aussi bien d'autres régions du monde et leurs populations. Depuis 80 ans, les rivalités entre États et bourgeoisie des pays développés n'ont cessé, même si elles étaient longtemps masquées par la guerre froide entre l'impérialisme et l'Union soviétique. Guerre froide qui a d'ailleurs menacé à plusieurs reprises de dégénérer en un conflit mondial. Pendant des décennies, les impérialistes se sont affrontés par l'intermédiaire de multiples guerres, plus ou moins localisées, mais au prix de dizaines de millions de morts dans les anciens pays colonisés. Même si elles ont mobilisé et tué aussi des soldats américains et européens, ces guerres, la population, elle a pu ici imaginer y échapper. Et depuis 50 ans, la crise du capitalisme, elle est marquée par la financiarisation du système, par la place qui occupe la spéculation, qui provoque des krachs boursiers avec leur cortège de misère, de morts, de familles jetées à la rue. En 2008, lors de la crise des subprimes, les banques des pays riches ont été sauvées par les États qui se sont massivement endettés. Et encore aujourd'hui, les capitalistes sont sous perfusion de milliers de milliards d'euros et de dollars d'argent public. Voilà qui donne la mesure du degré de sénilité atteint par le capitalisme. Financiarisation, bulles spéculatives, guerre locale, tout cela, loin de résoudre les contradictions du capitalisme, les a encore approfondies. Et ces contradictions poussent à un affrontement entre les puissances. Cela s'est vu avec le retour en force du protectionnisme. Bien avant Trump, les États-Unis ont lancé une guerre commerciale féroce à tous leurs rivaux, alliés ou pas, à coup d'énormes programmes de subventions et de droits de douane contre les produits industriels étrangers. Ils veulent ainsi asseoir leur position de numéro 1 et sont prêts à cogner pour cela. Trump a déclaré une guerre commerciale au monde entier. Et cette guerre, elle devient de plus en plus militaire. La guerre mondiale, qui a déjà démarré, ne ressemble pas aux précédentes. À travers les deux premières, les États-Unis se sont imposés comme l'impérialisme dominant, rejetant au second rang les autres puissances. Les États, comme la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou encore le Japon, sont désormais subordonnés aux États-Unis, tout en restant des rivaux. Leurs bourgeoisies ont fini par se soumettre et s'aligner, car elles n'ont pas les moyens de tenir tête à l'Amérique. Dans la lutte pour les marchés, pour les ressources, ces impérialismes de seconde zone essayent de préserver les intérêts de leurs capitalistes respectifs. C'est justement pour cela qu'ils prennent leur place dans la guerre qui se généralise. En Ukraine, les États-Unis sont les principaux vainqueurs de la guerre entre les puissances impérialistes et la Russie de Poutine. Guerre qui provoque depuis plus de 4 ans des centaines de milliers de morts et de vies brisées, de destruction et de souffrances sans nom. Cette guerre a affaibli les capitalistes européens privés du gaz russe. Les entreprises américaines ont raflé la part du lion, des terres, des mines, des usines, des banques d'Ukraine, comme des ventes d'armes. Mais pour préserver les intérêts de Dassault, de Bouygues ou du Crédit Agricole et de leurs homologues anglais, allemands, Macron, Starmer et Merz, écartés des négociations entre Trump et Poutine, se posent en alliés indéfectibles de Zelensky. Au Moyen-Orient, Macron a envoyé l'armée française dans le Golfe protéger les intérêts des patrons français. En participant aux guerres impérialistes lancées par les États-Unis, ils espèrent avoir des miettes du gâteau. Alors, autre différence avec les deux premières guerres mondiales, depuis 1945, certains pays autrefois colonisés ou semi-colonisés, après avoir arraché leur indépendance, se sont en partie développés profitant de ce que l'impérialisme américain ne pouvait pas encore s'imposer partout. Dans cette période de guerre froide, il pouvait obtenir un soutien diplomatique et économique auprès de l'URSS. La Chine, elle, a suivi un cours particulier. Pillée et dépecée par les grandes puissances depuis le XIXe siècle, elle s'est libérée de leur mainmise lors de la Révolution bourgeoise de 1949, dirigée par l'appareil politico-militaire de Mao. Celle-ci a fait naître un État fort et centralisé. Sous embargo pendant 25 ans, le pays s'est construit en opposition à l'impérialisme. Quand celui-ci l'a réintégré au marché mondial en position de sous-traitant, l'État chinois a empêché un pillage en règle du pays. S'il a mis les travailleurs chinois à la disposition des capitalistes occidentaux, le rôle prépondérant de cet État centralisé contrôlant l'économie a permis, comme nulle part ailleurs, le développement de grandes entreprises nationales. De l'atelier du monde, la Chine s'est transformée jusqu'à devenir un concurrent sérieux dans de nombreux domaines. Les entreprises chinoises ne sont plus simplement des sous-traitants du capital occidental. Elles fournissent des produits finis et de haute technologie. Entravées dans leur développement par les limites du marché intérieur, elles se sont tournées vers les marchés internationaux. Et cette montée en puissance renforce l'agressivité de l'impérialisme américain. Mais contrairement à toute la propagande qu'on entend, les deux pays ne sont pas à égalité dans ce bras de fer. L'impérialisme américain mène l'offensive, défendant bec et ongles sa position dominante. La bourgeoisie des pays impérialistes s'est enrichie en soumettant et pillant le monde entier, en exploitant les travailleurs de toute la planète depuis plus d'un siècle. Elle ne peut exister qu'en maintenant sa domination sur toute la planète. Face à cela, l'État chinois et derrière lui la bourgeoisie qu'il maintient en tutelle sont pour l'instant en position défensive dans la guerre commerciale que leur livre l'Occident, tout comme dans les rapports de force armés. À ce jour, la Chine ne possède qu'une base militaire en dehors de son territoire, contre 850 pour les États-Unis. C'est une armada américaine qui patrouille près des côtes chinoises, pas des porte-avions chinois au large de la Californie. Et ce n'est pas Xi Jinping qui met l'Amérique latine à sa botte, qui veut annexer le Canada et le Groenland. Alors même si elle semble erratique, la politique brutale de Trump a une cohérence. Il veut assurer à la bourgeoisie américaine des marchés, des routes commerciales, l'accès aux matières premières indispensables, le pétrole, le gaz, et donc en priver ses concurrents. Dans cette fuite en avant, chaque pas nous rapproche d'une déflagration mondiale. Ainsi, la guerre actuelle contre l'Iran aggrave les causes qui lui ont donné naissance. La crise, la concurrence entre capitalistes, les rivalités entre États. Le blocage du détroit d'Ormuz génère un chaos économique mondial. Pour ne prendre que l'exemple de l'hélium, le Qatar assurait un tiers de la production mondiale de ce gaz indispensable à la fabrication des semi-conducteurs. Après le bombardement des installations gazières, les capacités de production de puces sont menacées et la guerre entre branches industrielles et constructeurs s'intensifie. Alors même si le conflit actuel se termine par une trêve, ça ne permettra pas la paix. Cela aura au contraire accumulé encore plus de poudre dans le chaos d'un système capitaliste qui ne peut plus rien apporter de bien à l'humanité. La guerre en Iran montre aussi que s'imposer n'est pas si simple, même pour l'impérialisme le plus puissant de la planète. Cela coûte aux États-Unis 1 à 2 milliards de dollars par jour, soit 23 000 dollars la seconde. Les stocks de munitions sont au plus bas et la guerre est impopulaire dans la population américaine. Alors avec la Chine, cela sera encore plus difficile. Mais ces difficultés ne font que renforcer les États-Unis dans leur volonté de s'y préparer. Ils tirent des leçons. Un de leurs problèmes notamment, et d'arriver à mettre leur population en condition. Et cette préparation des esprits, mon camarade y reviendra. La préparation matérielle, elle, se poursuit. Ces guerres accélèrent la militarisation. Même si les économies ne sont pas encore réorganisées pour être des économies de guerre, tous les budgets militaires dans tous les pays sont en hausse. Ils ont atteint 2 500 milliards d'euros au niveau mondial en 2025. En France, une rallonge de 36 milliards du budget militaire vient d'être votée sans la moindre polémique. Tout cela montre que nous sommes entrés dans le processus d'une nouvelle guerre mondiale. Les dirigeants et les bourgeoisies des pays impérialistes en sont très conscients et s'y préparent activement. Quelles seront les prochaines étapes? Quels seront les prochains peuples sous les bombes? On l'ignore. Mais directement ou indirectement, les peuples et les travailleurs de tous les pays seront plongés dans la barbarie et transformés en chair à canon. Il n'y a pas de paix possible sous le règne de l'impérialisme. Mais il existe une force sociale capable d'en finir avec ce chaos et cette barbarie, la classe ouvrière mondiale. Elle seule peut et pourra transformer cette guerre impérialiste en une guerre révolutionnaire, une guerre sociale pour jeter à bas un système capitaliste éternel fauteur de guerre. Pour cela, la classe ouvrière doit se doter d'une politique, devenir consciente de la force qu'elle représente et des tâches qui s'imposent à elle. Et je passe la parole à mon camarade.
Si la peur de la guerre est dans toutes les têtes, beaucoup ont encore l'espoir de lui échapper. L'espoir qu'un politicien pacifiste gardera le pays à l'écart des conflits du monde, qu'une armée suffisamment puissante pourra nous protéger. L'espoir que Poutine ou Xi Jinping tiennent tête face aux États-Unis, qu'il est possible d'aller se planquer à la campagne ou de quitter le pays. Que cette guerre, c'est celle des Américains et qu'on peut y échapper en restant spectateur. Ou que le problème, c'est Trump, qu'il est fou et qu'il suffirait qu'il disparaisse pour que tout rentre dans l'ordre. Mais l'espoir, ça n'évite pas la catastrophe. Impossible de raisonner sans être pleinement conscient que la guerre, c'est l'avenir que nous prépare le capitalisme, ici aussi. La bourgeoisie sait que pour faire la guerre, elle doit d'abord gagner les populations à cette idée, pour ensuite les mobiliser dans l'armée. Trump bombarde l'Iran, mais il n'envoie pas de troupes au sol, parce qu'il sait qu'une majorité d'Américains est hostile à cette guerre. Elle est aussi impopulaire que la guerre du Vietnam, celle-là même qui avait suscité un mouvement de masse dans la jeunesse, et en particulier chez les jeunes noirs des classes populaires. Mouvement de masse qui avait contribué à précipiter le retrait des États-Unis et la fin de cette effroyable boucherie. Pour nous convaincre de mourir pour la patrie, la liberté ou le droit international, la bourgeoisie doit faire campagne, dramatiser, mentir, diviser, réprimer. Si les grandes puissances choisissent la mobilisation militaire, elles utiliseront tous les incidents, les monteront en épingle, en fabriqueront si besoin. Quand il s'agit de nous mentir, ils ne reculent devant rien. En ce moment, Trump dit que les États-Unis font la guerre contre l'Iran pour se défendre. Lors de la première guerre contre l'Irak, en 1991, il martelait qu'au Koweït, des soldats irakiens avaient assassiné des bébés. Ça avait secoué l'opinion occidentale à l'époque. Ils avaient même dit que l'Irak possédait la bombe atomique. Quelques mois plus tard, on apprenait que c'était des mensonges. Et ils ont fait la même chose en 2003, au moment de la deuxième guerre contre l'Irak, avec le bobard sur les armes de destruction massive et la fameuse deuxième armée du monde. Pareil avec la guerre en Ukraine, présentée comme la résistance d'un peuple pour sa liberté face à l'invasion russe. Or, cela fait 30 ans que les stratèges américains affirment qu'il faut à tout prix séparer l'Ukraine de la Russie pour affaiblir cette dernière. Et finalement, c'est Trump lui-même qui a ouvertement déclaré que son véritable but était de mettre la main sur les richesses et les marchés ukrainiens. La bourgeoisie a une politique et elle a du personnel pour la mener. tous ces partis politiques, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, et les directions des syndicats. Par exemple, un parti comme LFI, qui fait des voix dans les classes populaires, apparaît pour beaucoup comme pacifiste. En réalité, c'est un réel soutien pour la bourgeoisie dans la préparation à la guerre. Macron envoie des rafales pour défendre les monarchies du Golfe. LFI se précipite pour dire qu'il est normal que la France respecte ses engagements militaires envers ces pays qui ont acheté des armes françaises. Autrement dit, Mélenchon critique en se plaçant du point de vue de la défense des intérêts de l'État et de la bourgeoisie française. Quant au Parti socialiste, qui a été de tous les gouvernements qui ont mené les guerres coloniales, il ne fait même pas semblant, lui est pour le réarmement massif, envoyer des troupes en Ukraine et en Afrique et intervenir militairement dans le golfe Persique. Pour lui, Macron ne donne pas assez de moyens pour préparer la guerre. Les syndicats, la CFDT, c'est clair également. Tout ce qu'elle réclame, c'est d'être invitée à discuter de l'économie de guerre. La CGT, elle a aussi une politique nationaliste. Elle défend les industries d'armement, le Rafale, le nouveau porte-avions français. Tout cela au nom de la souveraineté nationale, c'est-à-dire des intérêts de l'État et de la bourgeoisie française. Et quand elle dénonce les pays étrangers comme responsables de la crise de l'industrie française, elle participe à entraîner les travailleurs dans l'union nationale avec la bourgeoisie française. En même temps, la CGT se dit pacifiste. Mais le pacifisme, c'est un leurre. Il consiste à faire croire que la paix peut exister dans le cadre du capitalisme. Il n'a jamais permis ni d'empêcher la guerre, ni même d'y mettre fin. Et bien des fois, les pacifistes d'avant-guerre sont devenus de fervents partisans de la guerre dès que les hostilités ont éclaté. Quant à l'extrême droite, elle a aujourd'hui l'oreille de certains travailleurs, car les partis de gauche se sont déconsidérés. Une partie de la bourgeoisie cherche donc à promouvoir l'ERN parce que c'est un outil de plus pour détourner la colère des classes populaires vers un bouc émissaire, les immigrés, les pauvres et toutes les minorités. Si aujourd'hui les travailleurs sont résignés et qu'ils encaissent les coups sans réagir, la résignation peut se transformer du jour au lendemain en colère et en révolte. Alors, dans les conseils d'administration et les hautes sphères de l'armée, il se prépare à briser les possibles résistances de la classe ouvrière. L'autoritarisme de l'État et des forces de répression, c'est ce qu'on voit grandir en France depuis les Gilets jaunes, qu'on a vécu lors du Covid et lors de la guerre d'Israël contre Gaza. C'est le début d'une telle politique. C'est aussi cela que propose de faire l'extrême droite, renforcer l'autoritarisme et mettre en place un pouvoir fort. De toute façon, que ce soit la gauche, la droite, l'extrême droite ou les directions syndicales, les travailleurs ne peuvent avoir aucune confiance en eux pour se prémunir de la catastrophe guerrière qui s'annonce. La classe ouvrière doit avoir une politique indépendante. Elle doit défendre ses propres intérêts et commencer par en prendre conscience. Les travailleurs n'ont aucun intérêt à soutenir le dictateur Poutine qui fait la guerre à sa propre population autant qu'à l'Ukraine. Mais quel intérêt aurait-il à s'aligner derrière les impérialistes occidentaux contre la Russie ? Aucun. Par contre, c'est l'intérêt des financiers français d'être présents en Ukraine. Quel est l'intérêt des travailleurs dans les interventions militaires françaises en Afrique ? Aucun. Quel est l'intérêt des travailleurs d'envoyer un porte-avions dans le Golfe et de lancer des missiles à 600 000 euros pièce ? Aucun. Mais pour Total et ses installations pétrolières et gazières, pour les banques françaises qui ont placé des capitaux dans la région, pour Dassault qui vend des rafales aux monarchies du Golfe, l'intérêt de cette guerre se compte en centaines de milliards. Une politique pour la classe ouvrière en France, c'est déjà de dénoncer systématiquement les capitalistes français qui tirent profit de la guerre. Les Total, Dassault, Thalès, les industriels de l'armement, les banques, les armateurs et même la grande distribution profitent de la multiplication des conflits. La fortune de la bourgeoisie dégouline du sang des peuples aux quatre coins de la planète depuis des siècles. Une politique pour la classe ouvrière, c'est aussi de dénoncer l'unité nationale, de montrer le vrai visage de l'État qui n'a pas pour vocation de défendre un soi-disant peuple français, mais de servir uniquement les intérêts des capitalistes en prétendant que ce sont ceux de la population. Cette montée vers la guerre les travailleurs en France la payent déjà. Par les prix et les impôts qui augmentent, par la réduction massive des moyens pour les hôpitaux, les écoles et les services utiles à la population, par l'aggravation de l'exploitation dans les entreprises et la pression sur les travailleurs au chômage. Plus la guerre va se généraliser, plus la bourgeoisie va mener la guerre de classe contre eux. Nous faisons tout fonctionner dans cette société. Rien, y compris l'armée, la guerre elle-même, ne peuvent fonctionner sans les travailleurs. Mais le drame, c'est que le système capitaliste nous contraint à tout faire fonctionner dans l'intérêt de la bourgeoisie. Quand Total va piller le pétrole et le gaz à l'échelle de la planète, quand Dassault vend des ravals au prix d'accords de défense, quand des grandes banques françaises mettent la main sur des centaines de milliards d'hectares de terres agricoles en Ukraine, de milliers, ils le font pour leur profit. Ce sont eux qui plongent le monde dans la guerre. Alors oui, les travailleurs doivent se défendre, pas contre des travailleurs d'autres pays qui partagent notre sort et notre condition, mais contre nos véritables ennemis, ceux qui menacent notre existence, nos vies, nos familles, contre cette bourgeoisie, son exploitation, son gâchis, ses guerres et ses cadavres. Les travailleurs devront s'organiser pour la renverser et construire une société sur des bases collectives dans l'intérêt de l'ensemble de la population. Oui, l'ennemi principal est dans notre pays. Dans l'immédiat, il faut enfoncer un coin entre la bourgeoisie et les travailleurs. Il faut montrer en quoi la guerre correspond aux intérêts de la classe capitaliste. Il faut se battre pour que les travailleurs ne se sentent pas solidaires des patrons. Il faut dénoncer les capitalistes profiteurs de guerre, affirmer la nécessité de confisquer les profits de guerre. Les actionnaires font des milliards de bénéfices sur l'industrie d'armement. C'est sur le dos de l'ensemble de la société, des hôpitaux, de l'enseignement. Il faut bien sûr dénoncer la hausse des budgets militaires. Mais tant que le pouvoir restera entre les mains de la bourgeoisie, ce sont les capitalistes qui décideront. Ces entreprises doivent passer sous le contrôle des travailleurs qui doivent pouvoir décider de ce qu'ils en feront. Mais cela ne pourra se faire tant que l'État restera entre les mains de la grande bourgeoisie. Ça nous paraît loin aujourd'hui ? Certainement. La conscience de notre classe est en retard face à la guerre qui vient. C'est un fait. Mais nous savons par les expériences du passé que la colère, la révolte peuvent surgir à tout moment. Ce ne sont pas les révolutionnaires qui la provoqueront. Ce sont les capitalistes eux-mêmes ou leurs représentants politiques. À cause d'une guerre, d'une attaque générale contre le monde du travail ou d'une humiliation de trop. Comme en 1871 lors de la Commune de Paris, pendant la guerre entre la France et la Prusse. Comme en Russie en février 1917, puis en Finlande, en Allemagne, en Hongrie et en Italie en 1918, 1919 et 1920. Les exploités, en se soulevant, ont arrêté la Première Guerre mondiale, ce que les prétendus pacifistes n'ont jamais fait. Dans ces moments où la colère des travailleurs explose, il faut des militants révolutionnaires dans la classe ouvrière. Il faut qu'ils soient connus, eux et leurs idées, reconnus par leurs camarades de travail. C'est la condition pour que la révolte puisse devenir révolution, une lutte décisive pour l'avenir de la société et de l'humanité. Toute l'activité militante d'un révolutionnaire doit se faire dans ce but. C'est le travail que, depuis ses origines, lutte ouvrière mène dans les entreprises. Actuellement, ça se fait autour de nos bulletins, même quand il n'y a pas de combativité collective. Ces bulletins expriment avec régularité les idées révolutionnaires dans les petites choses de l'exploitation quotidienne comme dans les grandes luttes sociales. Mais ce n'est pas tout. Ils cherchent à amener les travailleurs à la politique et les réunir, même en petit nombre, pour commencer, afin d'échanger, discuter et décider ensemble. Afin de rapprendre ensemble ce que veut dire une action collective, consciente et démocratique. Aujourd'hui, nous faisons un travail à une échelle moléculaire, à travers nos bulletins, notre intervention dans les luttes, petites ou grandes, notre participation aux élections. Mais c'est une préparation pour un combat à un tout autre niveau dont les travailleurs ont besoin. Le temps où la bourgeoisie pouvait concéder quelques réels droits sociaux pour acheter la paix sociale est terminé depuis longtemps. Le temps où les générations se succèdent sans connaître la guerre, en tout cas dans les pays riches, est terminé. Nous sommes entrés dans une période de changements brutaux, d'affrontements militaires, de guerres et de révolutions. Nous allons être confrontés à bien des situations que nous ne pouvons même pas imaginer. Mais nous savons que, quelles que soient les circonstances, ce sont les idées communistes révolutionnaires qui permettront aux militants ouvriers d'aider les travailleurs à comprendre, à éviter les pièges, à trouver un moyen de s'organiser pour agir. Aujourd'hui, nous sommes à la fête de lutte ouvrière, on discute, on débat et on fait la fête. Mais demain, que ferons-nous en cas de mobilisation générale, en cas d'attaque directe sur le territoire, en cas d'interdiction des organisations ouvrières ? Si nous voulons pouvoir répondre en révolutionnaire à ces questions, quand elles se posent, il faut avoir gardé les idées claires, des idées de lutte de classe et d'internationalisme. Mais il faut surtout que nous soyons présents, que ce soit dans les usines et demain dans l'armée. Notre sort est lié à celui de notre classe. Cette perspective, d'autres groupes révolutionnaires, en particulier de notre tendance, la défendent dans d'autres pays. Car si nous militons là où nous vivons, là où nous travaillons, contre un ennemi local, notre propre bourgeoisie, nous savons bien que pour réussir, la révolution prolétarienne ne peut pas se faire dans un seul pays. C'est pourquoi notre fête se veut un rendez-vous international, le rendez-vous de ceux qui veulent implanter, développer et faire vivre les idées communistes révolutionnaires parmi les travailleurs de tous les pays, de ceux qui veulent défendre la nécessité de la révolution sociale mondiale. C'est la seule perspective qui permette que, dans les luttes et les révoltes de demain, malgré les obstacles et les manœuvres des directions syndicales, des partis politiques de la bourgeoisie et de la répression de son État, la classe ouvrière renverse la bourgeoisie et s'empare du pouvoir afin de révolutionner toute la société pour en finir avec le capitalisme, les crises, la misère et la guerre.
Bon, alors, on va passer aux questions, aux interventions. S'il y a des camarades qui veulent intervenir au nom de groupes politiques, c'est bien sûr leur droit, mais qu'ils se présentent. Et on demande aussi, parce qu'il y aura sans doute beaucoup d'interventions, qu'il n'y ait qu'une intervention par groupe politique différent. Merci.
C'est bon, ouais, on va, super. Pas devant, comme ça, nickel. Ok, merci, bonjour tout le monde. Donc moi, c'est Arthur, de Gauche Révolutionnaire. Et alors, il y a deux points dans vos inter sur lesquels j'aurais bien aimé que vous reveniez, parce que j'étais pas sûr de comprendre quels étaient vos arguments. Déjà, c'est concernant la Chine. Vous avez dit, et à juste titre, que la Chine a une seule base militaire comparée aux quelques 800 des États-Unis, et donc on ne pouvait pas dire que la Chine était à un même niveau d'impérialisme que les États-Unis. Mais et aussi que, et ce qui est vrai par ailleurs, qu'il n'y a pas de bâtiments chinois qui croisent au large des côtes américaines, alors que l'inverse est vrai. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de bâtiments français ou britanniques qui croisent au large des côtes américaines, alors que les impérialistes britanniques, français, américains restent quand même opposés sur énormément de sujets, comme on le voit avec la fracturation de l'OTAN notamment, ou comme on le voit sur le fait qu'ils ne sont pas d'accord sur le sort réservé au Groenland. Et ça, c'est historique. Dès le débarquement américain au Maroc, lors de la Seconde Guerre mondiale, les Français étaient très emmerdés, parce qu'ils disaient « Mais quand même, c'est notre colonie, et puis là, il y a des soldats américains qui vont venir, avec des entreprises américaines, avec du capital américain. » Donc bon, est-ce que c'est vraiment une si bonne chose que ça pour nous ? Donc du coup, si vous n'hésitez pas, et à juste titre, à qualifier l'impérialisme britannique et français comme un impérialisme au sens strict, au même titre que ce que les États-Unis, pourquoi ne pas réserver le même sort à la Chine, qui quand même, par bien des égards, est un impérialisme tout à fait classique, qui plonge des pays dans la misère et dans la dette, qui place un peu moins ses troupes, parce qu'ils en ont moins les moyens, d'accord, mais qui place ses entreprises, qui place ses intérêts, qui place ses aides diplomatiques, et ainsi de suite. Et l'autre point, c'est... Vous avez dit qu'il y a plein de gouvernements qui se préparent à une... qui se préparent à une troisième guerre mondiale. Mais alors, moi, ça m'étonne, parce que, vous voyez, en 1960, la part du budget mondial destiné aux armements, c'était 6%. Aujourd'hui, c'est 2%. Et c'est pas du tout... Et c'est pas dans la même économie, hein, parce que le PIB mondial en 1960, c'était 1000 milliards de dollars.
Est-ce que tu peux faire un peu plus court,
parce j'allais finir ma phrase. C'était 1000 milliards de dollars, et aujourd'hui, c'est 114 000 milliards de dollars. Donc du coup, comment est-ce que ça se fait que vous pouvez dire qu'on va vers une troisième guerre mondiale alors que non seulement la proportion en valeur absolue des budgets militaires elle baisse par rapport aux années 60, mais en plus en valeur relative elle s'effondre aussi. Ouais, je trouve ça un peu étonnant. Merci.
Bonjour, moi c'est Victor, je milite à l'AG Antifa de Brest et à Autonomie de classe. Je pense que, alors je rejoins le premier point, pas le deuxième, mais du camarade sur la Chine. Je pense qu'en fait l'élément de, peut-être de confusion, c'est que vous n'avez pas défini ce que c'est l'impérialisme. Et ça c'est un peu difficile de parler de la guerre sans définir l'impérialisme avant tout. Et je pense que la confusion qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on pense que l'impérialisme, c'est la domination des États forts sur les États faibles. Et ça a ça comme conséquence. Mais l'impérialisme, avant tout, c'est une compétition entre tous les États et toute leur bourgeoisie. Et la Chine a fait partie de cette compétition. Je pense que concrètement, ça se voit très bien parce que la Chine a les mêmes relations asymétriques et avec l'Amérique latine, où la Chine va, par exemple, exporter uniquement des biens manufacturés, donc à valeur ajoutée de fou furieux, et en même temps, elle n'importe que des matières premières. Et donc, en fait, si on dit que la France, elle est impérialiste... en Afrique, bah, la Chine, elle l'est aussi partout dans le monde. Parce qu'en fait, ça n'existe pas un État impérialiste, parce que ça n'existe pas un État non impérialiste. Tout État est impérialiste par définition, quoi. Et le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est les perspectives concrètes. Vous parliez du budget, qu'il n'y avait pas vraiment eu d'opposition au budget militaire. Il y a eu une opposition au budget quand même. Et ça, c'est le mouvement Bloquons tout. On ne pouvait pas passer à côté du mouvement Bloquons tout au début de l'année. Et ça a été quand même quelque chose de super stylé. Mais par contre, c'est très clair qu'il manquait un angle antimilitariste aussi fort que ça aurait pu l'être. Et en fait, c'est notre rôle à nous, les militants révolutionnaires, d'aller dans tous les mouvements qui existent, qu'ils soient féministes, et je vais finir là-dessus, qu'ils soient féministes, antiracistes, antifascistes, etc. Et de pousser pour que ces mouvements deviennent non seulement féministes, antifascistes, etc., mais en plus anti-guerre, antimilitaristes et révolutionnaires.
Bon, alors effectivement, c'est revenu dans plusieurs questions. L'impérialisme, moi je pense que je l'ai quand même souligné, mais pour y revenir, l'impérialisme, c'est le capitalisme qui s'est développé à un tel point, ça date quand même depuis plus d'un siècle, c'est les bourgeoisies des pays où ça s'est développé le capitalisme en premier, hein, qui deviennent tellement puissantes, tellement importantes, qu'elles ont un besoin, hein, d'exporter des capitaux, de répandre leur domination sur l'ensemble de la planète. Bon, l'impérialisme, c'est ça. Entre autres, elles le font à la force de leurs armées pour aller s'imposer, piller des pays, piller des ressources, faire réduire aussi, hein, aller implanter des capitaux pour tirer de la plus-value, pour tirer du sang, de la sueur des ouvriers aux quatre coins du monde et le ramener dans leur portefeuille, leur coffre-fort. Bon, l'impérialisme, c'est un système qui domine la planète entière. Maintenant, il faut quand même qu'on voit tous les États ne sont pas impérialistes. Je suis désolée, le Mali n'est pas impérialiste. Enfin, je veux dire, le Vietnam n'est pas impérialiste. Sinon, on ne comprend plus rien. Voilà. Et que si on veut se repérer dans la période actuelle, si on veut piger la guerre dans laquelle ils nous plongent, si on veut avoir des billes pour leur mener la guerre, bah, faut quand même qu'on voit qui sont nos ennemis. Et nos ennemis, c'est en premier l'impérialisme hégémonique. Enfin, je veux dire, les États-Unis... Je vais pas faire une avalanche de chiffres, parce que je pense que c'est pas ça qui permet de comprendre, mais quand même, enfin, je veux dire, des groupes dont vous avez sûrement entendu parler, financiers, Vanguard Group, BlackRock, ils sont américains. C'est eux qui cumulent des milliers de milliards de dollars, qui détiennent des trusts entiers, qui mettent la planète en coupe réglée. Bon, bah ça, c'est pas chinois, c'est pas malien, c'est pas péruvien. Voilà. L'impérialisme qui domine la planète, c'est l'impérialisme américain. Il s'est imposé dans des guerres. Il a fallu les guerres, la première, la seconde guerre mondiale, pour qu'il s'impose face à d'autres impérialismes qui étaient là avant. Mais qui sont toujours là, effectivement. Il y a encore des rivalités. Effectivement, la France, la Grande-Bretagne, bah, c'est des petits. C'est des petits impérialistes, mais ils ont quand même la rage. Ils ont envie d'avoir des miettes du gâteau. Alors, eux aussi... Ils foutent du pognon dans l'armée et ils sont prêts à nous faire crever pour leur marché. Qu'est-ce que le Charles de Gaulle y fait dans le détroit d'Ormuz ? Eh bien, il va protéger CMA, CGM, il va protéger Total et ils sont prêts à nous faire crever pour ça. Bon, ben, nos ennemis, ici en France, c'est avant tout la bourgeoisie française et l'État à son service. mais c'est aussi l'impérialisme américain qui met toute la planète en coupe réglée, qui n'a jamais accepté qu'il y ait un centimètre carré de la planète qui lui échappe et qui, pour ça, est prêt à nous plonger et nous plonge déjà dans plein de pays dans un bain de sang.
Alors, il y a quand même une autre façon de voir l'impérialisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'impérialisme, nous, on le vit ici. On n'est pas chinois, on n'est pas américain non plus. On est français, on habite en France, en tout cas, on est des travailleurs de France. On a un gouvernement qui est ici, on a un État qui est au service de nos capitalistes. Et ça fait une différence. L'ennemi principal, il est dans notre pays. C'est notre ennemi principal. C'est celui-là qu'il faut abattre. Si on commence à penser qu'ils sont tous et que ben pourquoi choisir entre les uns et les autres, ben non, la classe ouvrière, elle doit faire un choix. Ton ennemi, il est chez toi, abat-le chez toi. Et que chacun fasse le ménage dans chacun, dans son coin là-dessus. Bon. Non, c'est pas Victor, mais c'est Arthur, de la gauche révolutionnaire. T'es étonné qu'on puisse parler de Troisième Guerre mondiale? Bah écoute, t'es une des rares personnes que j'ai rencontrées cette année qui en soit étonnée. Dans les usines, dans les quartiers, tout le monde en parle ou ne veut pas en parler. Dans les écoles, les militaires viennent rencontrer les jeunes pour leur vanter le bonheur du patriotisme et de défendre la nation. Dans les usines d'armement, les militaires viennent pour rencontrer les ouvriers pour leur dire... ce que vous fabriquez, c'est formidable. On ne sait pas contre qui on va se battre encore, mais ce que vous fabriquez, là, ça va nous être très précieux. Continuez, les petits gains. Trump, il n'est pas en train de s'étonner de la Troisième Guerre mondiale. Il a fait la guerre, lui. Il ne s'embête pas avec ça. Il a fait la guerre pour n'importe quelle raison, on s'en fout. Le problème, c'est que la Deuxième Guerre mondiale, comme la Première Guerre mondiale, elles ont été appelées comme ça après. Nous, pourquoi on parle de la Troisième Guerre mondiale à tout bout de champ? Parce qu'aujourd'hui, tout n'est pas égal. Aujourd'hui, il y a un danger qui pèse sur le monde, qui pèse sur notre classe sociale et sur l'humanité tout entière. C'est la Troisième Guerre mondiale. Les péripéties qui peuvent se passer à Matignon, au Sénat ou à la Chambre des députés, enfin, c'est de la gnognotte par rapport aux milliards qui sont mis dans les bombes. C'est juste irréel. Oui, il y a des tas de gens aujourd'hui qui veulent vous parler d'autre chose que de la Troisième Guerre mondiale. Tous les gens qui vous parlent d'autre chose que de la Troisième Guerre mondiale sont en train de vous détourner de votre avenir, sont en train de vous désarmer, comme si ça n'allait pas arriver, comme si le capitalisme pouvait l'éviter. Oui, les capitalistes ne veulent pas faire la Troisième Guerre mondiale. Le problème, c'est qu'il n'y en a aucun qui veut perdre. Et que le capitalisme, c'est la guerre. C'est la guerre économique, c'est la guerre sociale, et c'est la guerre entre pays, entre bourgeoisie, pour rafler tout ce qu'il y a à rafler. Et aujourd'hui, ça fait 50 ans de crise, ils vont se repartager le monde comme ils l'ont fait déjà deux fois. Voilà. Alors on peut dire que c'est pas vrai. On peut dire que oui, ah ben ils dépensaient plus à ce moment-là. Bon, n'empêche que cette année, ils dépensent plus que l'année passée, et l'année passée, ils dépensaient plus que l'année d'avant. Si ça, c'est pas un signe qu'ils vont y aller ou qu'ils s'y préparent, eh ben, y a un problème là, parce que c'est un signe. Et nous, notre rôle, le rôle des révolutionnaires, c'est de pas minimiser ça. Parce que des conflits, on n'a pas fini d'en voir, et des révoltes non plus. Des révoltes, il y en a eu toute l'année, il n'y a pas eu que des guerres. Il y a des tas d'endroits où on s'est révolté, où des peuples, des gens se sont révoltés. Des travailleurs ont été dans la rue. En Iran, là, il y a quelques mois, il y a des gens qui étaient dans la rue, des travailleurs qui descendaient de la rue au péril de leur vie pour contester une dictature. Et aujourd'hui, ces mêmes travailleurs se retrouvent à être sous les bombes et sous une dictature qui a changé de nom mais qui reste la même. Les problèmes, là, eux, ils sont concrets. Vous avez envie d'aller dire à un Iranien qui serait peut-être ici. Ouais, la Troisième Guerre mondiale, vu les chiffres qu'il y avait il y a 50 ans, non, c'est pas vrai. Ben si, c'est évident. Ça pleut de bombes partout. Alors, qu'on soit pro-LGBT, qu'on soit pour le droit des femmes, pour le droit à l'avortement, pour contre l'antisémitisme, contre le racisme, qu'on soit pour défendre tout ce que vous voulez, qu'on soit pour défendre les baleines, qu'on soit pour défendre le climat, qu'on soit pour défendre tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas le faire dans le cadre du capitalisme. Vous avez perdu d'avance. C'est un combat sans fin, car le capitalisme se nourrit de ça. Il se nourrit de nos divisions, il se nourrit en écrasant les minorités, en faisant des boucs émissaires. C'est une de ses manières de tenir bon. Si vraiment vous voulez défendre votre combat, eh bien la seule classe sociale qui peut le faire, c'est la classe ouvrière. Mais elle le fera pour ses propres intérêts. Alors, moi, j'ai un conseil à vous donner. Rejoignez le combat, rejoignez la classe ouvrière, essayez de faire en sorte que dans les usines, dans les quartiers ouvriers, on parle de nos intérêts de travailleurs, parce que tout le monde parle de tout, sauf de nos intérêts de travailleurs, et qu'on parle que notre ennemi, il est dans notre pays et qu'il va falloir l'abattre. Il va falloir l'abattre parce que personne ne sera libre tant que les capitalistes seront au pouvoir. Voilà.
Bon, alors, on va reprendre des questions ou des interventions. Là, il y en a un, et puis un autre juste derrière. Tu peux prendre les deux à la suite, comme ça.
Juste pour ajouter un tout petit truc, il y a quelques mois, il y a une LDC qui est sortie avec un article sur la...
Parle dans le micro.
Ouais, juste pour ajouter un petit truc, il y a quelques mois, il y a une LDC qui est sortie avec un article sur la Chine, en gros, qui explique que ce que fait la Chine en Afrique. Juste pour rajouter sur ce que vous avez dit, par exemple, Huawei, ils construisent certes des antennes en Chine, les opérateurs, c'est Orange. Enfin, faut aussi avoir ça en tête. Oui, tout ce que vous avez dit sur l'aspect militaire, ça me suffit, mais c'est ça, en fait, le fait que la Chine, c'est pas un impérialisme, c'est qu'ils prennent les miettes, même là, ils ont... Même devant la France, ils s'imposent pas, quoi.
Le premier, c'est en effet... Effectivement, on est bien déjà dans la Troisième Guerre mondiale, et même l'engrenage qui va conduire les pays de l'OTAN ou européens à être directement touchés est probablement déjà engagé, puisque le climat en Russie change très rapidement. Avant, il y avait quelques fous furieux qui parlaient d'utiliser les bombes atomiques, etc., de s'en prendre avec plus de véhémence aux pays de l'OTAN qui paraissaient marginalisés et qui maintenant ont de plus en plus de poids, que ce soit auprès du pouvoir que dans la population. En particulier, c'est la conséquence de la politique de l'OTAN qui, en permanence, va un petit peu plus loin en bravant les interdits qu'il s'est lui-même fixés. Pas de F-16, finalement, il y a des F-16. Pas de bombardements en Russie, finalement, il y a des bombardements en Russie. Et le pouvoir russe, finalement, finit par avoir des difficultés à résister à l'envie de bombarder directement les pays occidentaux, alors que les pièces des drones arrivent par avion en Ukraine pour être assemblées et être envoyées en Russie. Idem pour les drones qui sont fabriqués dans les pays baltes et qui sont envoyés sur les populations russes directement. Second point... En effet, le problème de savoir si la Chine, la Russie, l'Iran sont des pays impérialistes, c'est clair qu'ils ont des bourgeoisies dont ils défendent les intérêts. Ceci dit, ce sont des pays qui partagent d'être des anciens pays dominés et qui peut-être en ce moment vont changer cet état de fait ou augmenter leur place dans la hiérarchie mondiale. Pour l'instant, en fait, on ne voit pas, on n'a pas vu de politique militariste de ces pays-là, de la Chine, etc. Ils n'ont qu'une seule une seule base militaire. Pour l'instant, ils ont des armes, mais ils ne les utilisent pas. Ils essayent juste de défendre leur accès maritime autour du détroit de Formose, l'ex-détroit de Formose. Et voilà. Mais c'est pas vraiment, ils ne sont pas vraiment engagés dans une politique agressive comme le sont les anciennes puissances coloniales et impérialistes.
Alors, pour répondre à la question qui n'a pas été posée, qu'est-ce que ça change quand on dit que la classe ouvrière, nous, c'est sur celle-là qu'on mise, c'est sur notre classe sociale, que c'est celle-là qui va changer le monde, c'est celle-là qui a les moyens de le faire. Y a la bombe atomique, ça pourrait nous péter à la gueule de partout. Aujourd'hui, les impérialistes, et même les pas impérialistes, ils ont la bombe atomique et ils peuvent la détruire plusieurs fois. La France peut déjà le faire à elle toute seule. Bon, très bien. Si on raisonne en se disant qu'on est foutu par rapport à ça, oui, peut-être, mais on va tous mourir un jour. Et c'est pas une raison pour se dire le matin qu'on est foutu par rapport à ça. Il y a plein de choses à faire. Et moi, ce que je vois, c'est que la classe ouvrière, dans toute sa composante, non seulement on va participer à la guerre en tant que chair à canon, mais aussi en pourvoyeur de missiles, de drones, de porte-avions, d'avions, d'engins de mort. C'est nous qui allons le faire. Il y a quelque temps, là, vous avez remarqué qu'il y a un énorme porte-avions, hein, un des fleurons de la marine américaine, qui était censé de s'occuper de l'Iran et qui a dû faire demi-tour pour rentrer au port. Il est rentré au port parce que les chiottes étaient bouchées. Ils ne sont pas bouchés tout seuls. Dans ce bateau, il n'y a que des soldats professionnels. Ça faisait 9 mois qu'ils étaient en mer. Ils devaient certainement en avoir ras-le-bol. Et ils se sont organisés pour faire en sorte que le bateau y rentre parce qu'ils en avaient marre. C'est ça aussi qu'on va vivre. On va vivre des tas de moments difficiles, mais on va vivre aussi des tas de révoltes. Celle-là, c'en est une. C'est pas n'importe quoi. Un porte-avions qui doit rentrer pour un détail pareil. Voilà. Et puis, quand même, effectivement, ils peuvent faire des tas de choses. Ils ont une puissance technologique aujourd'hui qui peut sembler impressionnante. Enfin, je vais vous prendre un exemple bête, mais dans les années 90, il y avait Canal+. Et Canal+, si on voulait regarder, fallait avoir un décodeur. Moi, je travaillais dans une usine où on fabriquait des photocopieurs, pas du tout des décodeurs, mais il y avait une ligne parallèle, clandestine, dans l'usine, de travailleurs qui fabriquaient des décodeurs clandestins pour qu'on n'ait pas payé les décodeurs de Canal+. La classe ouvrière, c'est aussi ça. Nous sommes la ressource. Nous fabriquons tout. Tout est dans notre tête, tout est dans nos mains. Les capitalistes, ils peuvent rien faire sans nous. Nous, on peut largement se passer d'eux. Mais eux, ils peuvent rien faire sans nous. Et des solutions pour parer toutes les saloperies qu'ils vont nous faire, on les a dans nos têtes. Mais ça ne peut marcher qu'à condition que les travailleurs soient organisés. Hein ? Parce que demain, si ça explose, il y a des tas de travailleurs partout qui ne marcheront pas dans les plans pourris. Mais ne pas marcher dans les plans pourris tout seul, un par un, même si on est des milliers, c'est pas la même chose que si on est quelques centaines, organisés. Parce qu'on réfléchit ensemble, on agit ensemble, on devient une force. Et la classe ouvrière, elle doit retrouver ça. Nous sommes une force, nous sommes... C'est pas les États-Unis la première force du monde. La première force du monde, et de loin, c'est la classe ouvrière. Et notre rôle, c'est de la réveiller.
Oui, alors juste pour dire, je trouvais ça vraiment bien l'exemple que tu as donné sur l'Afrique est vraiment éclairant sur ce côté, ils prennent les miettes, quoi. Et c'est quelque chose qui est précieux à garder en tête. Mais aussi sur ce côté de l'autre intervention, là, en disant, les bombes atomiques contre l'OTAN. Mais enfin, quand même, la seule pays qui a utilisé des bombes atomiques contre une population, c'est les États-Unis. Enfin, c'est Hiroshima, c'est Nagasaki. Qui c'est qui bombarde aujourd'hui? Qui c'est qui met la planète à feu et à sang? C'est les États-Unis, c'est la France. Qui c'est qui vend des armes à Israël pour faire ces massacres à Gaza? C'est la France. Continue d'en vendre. Et moi, je pense que c'est d'autant plus précieux d'avoir ça en tête que, oui, on est en France. Oui, on est dans un pays impérialiste et que c'est nos États, c'est nos bourgeoisies qui sèment la terreur à travers la planète. Et que, je rejoins le camarade tout à fait, bon, bah, ceux qui ont les manettes dans les mains pour mettre un terme à ça, évidemment, c'est les travailleurs et c'est la classe ouvrière. Il faut qu'on voit notre ennemi. Mais d'un autre côté, tous ces autres régimes qui apparaissent en opposition, que ça soit les mollahs en Iran, que ça soit le régime chinois, bon, bah, c'est pas du tout des régimes qui sont de notre côté non plus. Et moi, je trouve que ce qui est très dangereux aujourd'hui, ça serait de rester spectateur. Ça serait de se dire, dans ces conflits-là, ah bah, dans quel camp je me range? Est-ce que je me mets un peu plus du côté États-Unis-France ou un peu plus du côté iranien? Bien sûr qu'on est content, là, que les États-Unis soient tombés sur un os en Iran, que ce pays tout-puissant, cette bourgeoisie, ces dirigeants qui pensaient pouvoir réduire ce pays en miettes, ben, là, pour le moment, ils n'y arrivent pas. Mais enfin bon, c'est qui tire profit de ça? Le régime des mollahs? Qu'est-ce que ça change pour les prolos iraniens? Le régime des mollahs, c'est ceux qui les exploitent, c'est ceux qui s'enrichissent sur leur dos, c'est ceux qui piquent l'eau, qui font qu'il y a plein de gens qui sont dans une situation catastrophique. Bah, quand on est communiste révolutionnaire, on ne choisit pas le prochain maître d'esclaves. On ne se dit pas ça sera un peu moins pire avec un tel ou un tel. On se dit, nous, notre camp, bah, faut qu'on se prépare, faut qu'on s'arme, et qu'on s'arme dans la tête et plus tard militairement pour les foutre dehors. C'est pas question de passer d'une oppression à une autre.
Des questions
là-bas tout au fond.
T'as bossé toi?
Merci. Bonjour, je me présente. Je travaille à Stellantis Vesoul dans l'est de la France, hein, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas Vesoul, donc dans l'est de la France.
Bon, attendez là. Dans le micro, ouais.
Bon, je travaille à Stellantis Vesoul dans l'est de la France, donc voilà, je suis ouvrier. Et je rebondis par rapport à ce que j'ai entendu du camarade de la gauche révolutionnaire, c'est ça?
Oui.
Ça m'a un peu surpris, parce que je me rappelle en 2022, je ne sais plus quand il y a le conflit entre l'Ukraine et la Russie, on commençait à raconter à nos collègues de travail qu'il y avait une escalade vers la guerre généralisée qui se mettait en place. Moi, je milite à lutte ouvrière, hein. Et on passait un peu pour des extraterrestres. Puis peu de temps après, bon, bah, y a l'attaque du Hamas, la réaction, je le cite, de Gaza. Bon, là, les gens commençaient à réagir dans l'atelier. Ils commençaient à se demander qu'est-ce qui se passait. Donc nous, on a commencé à parler de Troisième Guerre mondiale. On est un petit peu pour des extraterrestres. Ensuite, ce qui se passe aujourd'hui avec l'Iran, avec l'impérialisme américain. Et je pense qu'à l'usine, aujourd'hui, quand on parle de Troisième Guerre mondiale, on passe plus du tout pour des extraterrestres. Je peux même vous raconter, il y a beaucoup de gens qui ont peur de... Ils imaginent que Poutine, il est fou, puis qu'il irait envahir l'Europe. D'autres qui pensent que c'est au contraire Trump qui est un danger. Bon, d'autres qui disent, ouais, ça vient du Covid. Enfin, ils ont leurs explications, eux, les travailleurs. Mais en attendant, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils ont peur quand même d'un conflit généralisé. Alors que le camarade de la gauche révolutionnaire, lui, s'en rend pas compte. Il faut qu'il aille bosser dans une usine, déjà, pour commencer. Et il faut savoir que la plupart des travailleurs me le disent tous les jours. Moi, j'arrête de regarder la télé, j'en peux plus. J'ai trop peur de voir des images de guerre. Bon, ils font un peu l'autruche. Mais en même temps, je les comprends. Moi aussi, j'en ai marre de regarder. Dès que j'allume, je vois l'Iran, je vois des bombes, je vois... voilà. Mais bon, c'est le monde tel qu'il est aujourd'hui. Je peux vous dire que je travaille donc en Haute-Saône. En Haute-Saône, il y a une base aérienne. Rien que pour les bases aériennes, il n'y avait plus l'arme nucléaire. Donc là, elle est revenue, là, elle revient. Il y a le nouveau escadron de Rafale qui va revenir. Puis rien que pour faire le réfectoire et puis les dortoirs de la base aérienne, ils mettent 1,5 milliard. 1,5 milliard, et à côté, nous, on n'a pas de médecin. liste d'attente dans les hôpitaux, on subit déjà la marche vers la guerre. On l'a subi déjà. Je vois, il y a des entreprises qui commencent à travailler pour l'armée. Moi, je pense à la Magyar vers Arc-Légré, c'est aussi Haute-Saône. Ils n'avaient plus de boulot, là, ils ont du boulot, ils font des citernes, puis ils renouvellent le parc de camions, de TRM, pour ceux qui ont fait l'armée, ils connaissent. Enfin, voilà, il y a des budgets militaires qui commencent à se mettre en place. Vous allez boire une bière dans un bar, hop, je regarde, bon, excusez-moi, c'est pas forcément ce qu'il faut faire tout le temps, je conseille pas. Et qu'est-ce que je vois? Je vois un sous-boc, armée de terre, engagez-vous. Dans ma ville, il y a des partenariats entre l'armée de l'air et BTS Aviation. Dans les collèges et dans les lycées, on commence à faire des partenariats avec l'armée. Moi, je me rappelle, quand j'étais gosse, là, je suis né dans les années 70, quand j'étais gosse, j'ai dû voir une fois un militaire, un poilu, qui est venu me voir, j'étais en CM1, je me rappelle comme si c'était hier. Bon, c'est vieux, hein. Mais il est venu raconter les horreurs de la guerre et le gaz moutarde, comment c'était la vie dans les tranchées, pour dire que c'est une horreur la guerre. Maintenant, on parle de la patrie, de l'armée, de l'avenir de la jeunesse. Franchement, si on ne voit pas là un début, au moins, de propagande de guerre, ben, c'est qu'on a de la merde dans les yeux, excusez-moi.
Bon, du coup, revenir sur la Chine pas impérialiste. Moi, ce que je trouve marquant, c'est que bon, cette question, elle revient autant. Alors, il y a une part, c'est normal, on se questionne, qu'est-ce que c'est que la Chine, ce continent, etc. Mais il y a quand même une part de propagande. Ici, en France, on n'arrête pas de nous dire dans les médias, le gouvernement, etc., que c'est la Chine. Vous vous rendez compte, c'est l'automobile chinoise qui va faire s'effondrer des trusts comme Stellantis et comme Renault. Ben, c'est quand même un peu dingue. Enfin, là, c'est quoi? Ils ouvrent une ligne de production dans une usine en Bretagne. Mais à l'inverse, il y a 150 usines de groupes occidentaux en Chine qui, depuis 40 ans, font suer et exploitent à n'en plus finir les ouvriers chinois. Bon, ben voilà, l'impérialisme, c'est ça. L'impérialisme, c'est aller piller, aller exploiter dans tous les coins de la planète, y compris en Chine. Et d'avoir d'ailleurs l'État chinois qui joue le garde-chiourme et qui fait bosser la classe ouvrière et qui essaye de lui taper le plus fort possible sur la tête pour que le pognon y parte dans les coffres-forts de Renault, de Stellantis, de Apple et compagnie. Bon, c'est juste une image, mais c'est marquant. Et en fait, c'est relié. Faut pas qu'on sépare l'économie et le militaire. C'est relié. Je veux dire, la Chine, elle a même pas été en guerre depuis 1979. Et là, je vais pas vous faire toute la liste de tous les conflits dans lesquels l'impérialisme américain, français, britannique, ils ont été plongés depuis 1945, parce que voilà, on n'aurait pas fini. Ils sont en guerre permanente. Ils sont en guerre permanente parce que leur système capitaliste, il est à bout de souffle, qu'il faut aller choper le moindre marché, qu'il faut aller choper la moindre parcelle pour cette course au profit qui n'en finit pas. Et elle n'en finira pas tant qu'ils auront les manettes. Ça, c'est ça que l'impérialisme. Et l'impérialisme, c'est aussi plus d'un siècle. Ça veut dire que ces puissances, elles ont des liens. Enfin, il y a des liens humains. Chez qui ils vont se former, les dirigeants des pays africains, les officiers? Bon, ben, pendant un temps, c'était en France, et puis après, ça a été aux États-Unis. Et c'est ces liens-là qui sont puissants. C'est des liens entre appareils d'État, mais enfin, c'est des liens aussi, les capitalistes français, les capitalistes américains, les capitalistes britanniques, ils ont des liens parce que ça fait des siècles qu'ils exploitent ces pays-là. Bon, et ça se construit, ça prend du temps. Et la Chine, c'est pas du tout ça. C'est absolument pas ça. Et s'il faut à ce point-là qu'on s'explique, j'y reviens quand même, c'est parce qu'on nous fout dans la tête que notre danger, à nous, ce qui nous menace, c'est la Chine. Mais enfin, c'est pas la Chine qui fait qu'on peut pas faire son plein. C'est pas la Chine aujourd'hui qui fait que les travailleurs, on va bosser tous les jours et on n'arrive même pas à remplir son caddie. Ça, c'est Total, c'est Carrefour, c'est les capitalistes français et c'est l'État français à leur service.